Zimmerman, I wrote a song for you about a strange young man called Dylan with a voice like sand and glue. Some words had truthful vengeance that could pin us to the floor. Brought a few more people on and put the fear in a whole lot more. Ah, here she comes, here she comes.
Song for Bob Dylan de David Bowie, c'était pour vous ça, Daniel Salvatore Schiffer. Vous écoutez,
beaucoup,
mais vous appréciez.
Oui, oui.
Ah, j'ai quand même envie de vous demander, avant qu'on passe l'archive, entre Bob Dylan et Oscar Wilde, est-ce que vous voyez des similitudes ?
Bien, en tout cas, à travers Bowie, oui, puisque Bowie aimait beaucoup, bien sûr, Oscar Wilde. Bowie découvre Oscar Wilde à travers son maître en pantomime, qui était Lindsay Kemp. C'est Lindsay Kemp qui fait découvrir à David Bowie Oscar Wilde. C'est David Bowie lui-même qui le dit. Et puis, il y a cette chanson de Bowie en hommage à Dylan qu'on vient d'écouter. Et puis, il y a une chanson de Bob Dylan lui-même, quelques années après, qui s'appelle Handy Dandy, qui est un hommage au dandy. On n'imagine pas que quelqu'un comme Bob Dylan ait pu s'intéresser au dandysme. Mais bien si, il a fait une chanson dans les années 90 en hommage au dandy, Bob Dylan.
Je suis la seule personne en vue, en ce moment, à porter une fleur à la boutonnière. La mode, c'est ce que l'on porte soi-même. Ce qui est démodé, c'est ce que les autres portent. De même, la vulgarité n'est que la façon dont les autres se comportent. Et le mensonge n'est rien que la vérité des autres. La vie en communauté est quelque chose de terrible. La seule société possible est celle de soi-même. S'aimer soi-même, c'est être assuré d'être aimé pour la vie.
Ask a good friend Dylan if it is a while down the old street. Et oui, s'aimer soi-même, c'est être sûr d'être aimé pour la vie, Daniel Salvatore Schiffer. Ça aussi, c'est un enseignement de ses professeurs d'Oxford, finalement.
Oui, certainement, en tout cas Walter Pater, oui, qui était, comme je l'ai dit, un grand épicurien, un grand dandy à sa manière. Et c'est là que Wilde devient le dandy que l'on sait. C'est une chose très importante. Sauf que Wilde, à la fin de sa vie, s'aimait beaucoup moins parce que ses déboires et la prison l'avaient affaibli, il avait beaucoup grossi, ses traits étaient défigurés un peu.
Est-ce que physiquement, parce qu'il faisait très attention à la beauté physique, qui était primordiale chez lui, est-ce que lui a parlé ou écrit des choses sur son propre physique ?
Pas sur son propre physique, non, à ma connaissance, non. Sur lui, sur son physique, il n'a rien écrit, mais... lorsqu'il devient le dandy, donc à Oxford, et qu'il fait notamment cette grande série de conférences pendant un an aux États-Unis, là, il soigne vraiment son apparence. Il soigne vraiment ses mises. Il part aux États-Unis, du nord au sud, de l'est en ouest, avec une énorme valise, et dans cette valise, une panoplie d'objets dandy, des gants, des cannes, des chapeaux haute forme. Toute une série d'habits, de chaussures.
Son fameux manteau vert à fourrure.
Son fameux manteau vert à fourrure dont son meilleur ennemi, James Whistler, le peintre, à la croisée du pré-raphaélisme et de l'impressionnisme, se moquait très cruellement. Il était très soucieux de son apparence, Wilde, mais n'a jamais beaucoup écrit sur son apparence. On ne sait pas grand-chose de ce qu'il a pu penser de lui-même.
En tout cas, il n'a jamais eu un physique de jeune et faible, comme les physiques qu'il appréciait.
Voilà, c'est ça, oui. Il n'était pas spécialement beau, mais il avait beaucoup de charme, et surtout beaucoup de charisme. Même les gens qui ne l'aimaient pas spécialement le lui reconnaissent. Sarah Bernhardt, les femmes, Lily Langtry, qui était la grande tragédienne, la grande comédienne anglaise, la Sarah Bernhardt anglaise, reconnaît en lui aussi beaucoup de charme.
Et c'est la voix apparemment.
La voix,
particulièrement.
La voix était très importante. Et André Gide parle de sa voix. André Gide a parfaitement raison de dire que c'était un conteur. Wilde s'écoutait parler. Il avait une très belle voix. Il avait beaucoup soigné son accent. Au départ, il avait un accent irlandais. Puis il est allé suivre des cours de diction chez des professeurs de théâtre à Londres. Et là, il a vraiment soigné ses intonations, sa voix. Son accent Et il aimait beaucoup parler et les gens aimaient beaucoup, beaucoup l'écouter. Quand il y avait des dîners en ville, il était vraiment le centre du monde. Pas tellement parce qu'il le voulait, mais parce qu'il avait un magnétisme qui faisait qu'il attirait spontanément les gens. Il avait un regard très profond et une façon d'aimanter l'auditoire qui était très prenante.
Et alors, au cours de ce fameux voyage aux États-Unis, qui dure du 24 décembre 1881 au 27 décembre 1882, un tout petit peu plus d'une année, il va rencontrer un certain nombre de personnes, d'écrivains, et notamment, par exemple, Walt Whitman, qui était déjà assez âgé. Comment ça se passe, leur rencontre?
Oui, Wilde demande à rencontrer certains grands écrivains ou philosophes, comme Emerson, par exemple, le plus grand philosophe à l'époque américain, mais surtout Walt Whitman, qui était un grand poète que Wilde admirait. Wilde a toujours aimé les poètes un peu sulfureux, comme dans sa jeunesse, il aimait, par exemple, le poète anglais Swinburne, dont plus personne ne parle aujourd'hui, mais qui a notamment écrit Lesbos, Swinburne, grand poète anglais très décadent, en pleine époque victorienne. Les victoriens disaient de Swinburne que c'était un satyre lâché dans un salon victorien. Et donc, Wilde aussi, lorsqu'il va aux États-Unis, demande à rencontrer Walt Whitman, qui avait écrit à l'époque Feuilles d'herbe, son très beau recueil de poèmes. Mais Whitman était homosexuel, comme Swinburne d'ailleurs. Donc, quand Wilde, jeune et peut-être pas beau, mais avenant, en tout cas, et séduisant, sûrement, rencontre Walt Whitman, ça se passe plutôt bien, parce que Walt Whitman le trouve bien, et un petit flirt s'ébauche entre eux, et Wilde va le revoir une deuxième fois, et quand Wilde sort, il écrit d'ailleurs une lettre, c'est dans sa correspondance, qu'il apprécie encore le baiser chaud que lui a donné sur ses lèvres Walt Whitman.
Oui, mais alors Henry James, qui était aussi... on n'en sait rien d'ailleurs, dont on pense qu'il était aussi homosexuel, pourtant ça ne se passe pas bien du tout
non,
quand ils se rencontrent au cours de ce même voyage.
Henry James détestait Wilde. Henry James était un esthète, mais ce n'était pas un dandy. Il faut faire une distinction entre les dandys et les esthètes. Ce n'est pas pareil.
Pourtant, c'est bien l'esthétisme que théorise
oui,
Oscar Wilde.
Oui, mais Wilde était certainement un esthète, mais le côté dandy avait... occulter plutôt l'esthète chez Wilde. Wilde parlait d'esthétisme, mais n'était pas spécialement un esthète, c'était un dandy. Quelle est la différence entre l'esthète et le dandy? Ben, c'est le côté tragique. Les dandys, il y a vraiment un côté tragique, un côté sombre chez eux. J'appelle un clair-obscur en chair et en os, un oxymore vivant. C'est un côté flamboyant, solaire, et un côté crépusculaire, sombre.
Donc vous ne voyez pas de tragédie, par exemple, dans la vie de Henry James, comme vous en voyez dans la vie des dandys?
En tout cas, pas comparable. Wilde est mort pauvre, désargenté, ayant tout perdu. Il est vraiment mort comme un vrai poète maudit. La mort de Wilde fait songer à celle de Baudelaire. Et Baudelaire dit une chose très belle dans « Mon cœur mis à nu », un de ses deux journaux intimes avec Fusée, c'est la double postulation simultanée. Très vite, en 30 secondes. Et Baudelaire écrit textuellement, et c'est tout à fait wildien. Il y a dans tout homme, à toute heure, deux postulations simultanées. L'une, invocation à Dieu, où élévation est une joie de monter en grade. L'autre, invocation à Satan ou le diable, est une joie de descendre dans la fange, dans ce qu'il y a de plus sombre dans le psychisme humain. Eh bien, le dandy, il est ça. Il y a des fois un côté très flamboyant, très solaire, très flambeur, et puis un côté très sombre qui va vraiment dans l'inconscient et dans les forces les plus sombres du psychisme qui se retrouve chez Wilde. Et le portrait de Dorian Gray, c'est vraiment ça. À la fois un côté flamboyant, jeune et beau, Dorian Gray, mais un côté terriblement sombre.
Mais tout aussi attirant.
Et tout aussi attirant. Et c'est d'ailleurs ce qui va attirer certaines figures du rock. On parlait de Jim Morrison, on pourrait parler d'Amy Winehouse, du Club des 27, comme on dit, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, à la fois des gens extrêmement magnétiques, extrêmement charmeurs, mais avec un côté sombre. Lou Reed, par exemple, le grand ami de David Bowie, le Velvet Underground, Andy Warhol, à la fois cet aspect flamboyant, ce côté sombre, qui est vraiment, à mon avis, la quintessence de l'art. Que l'on pense à Van Gogh, qui fait des soleils crachés, comme disait Jacques Brel, qui s'écrase sur des champs de blé dorés, et qui en même temps se suicide, et a une fin tragique. Est-ce que c'est pas ça la quintessence de l'art? Pensons à Nietzsche, Zarathustra, sur les cimes, mais en même temps, qui finit dans l'abomination, comme le Don Giovanni de Mozart.
Alors, il y a aussi des choses très belles, évidemment, qui arrivent pendant ce voyage. Et le plus beau cadeau qui a jamais été offert à Oscar Wilde, eh bien, c'est la nièce de John Keats, qui l'adorait, et qui va lui donner quelque chose d'extraordinaire.
Un poème. John Keats était le poète préféré d'Oscar Wilde. Dans sa jeunesse, Wilde ne jure que par John Keats. C'est un des trois grands poètes romantiques. Il y a Shelley, Keats et bien sûr mon cher Lord Byron, auquel j'ai consacré aussi une biographie dans la même collection que Wilde, chez Gallimard, Folio Biographie. Eh bien, Wilde adore Keats. Il aime beaucoup Shelley. Dans son bureau, lorsqu'il est marié avec Constance, il y a dans son bureau un grand linteau avec un poème de Shelley, mais son poète de prédilection, c'est Keats. Et lorsque Wilde va à Rome, il va sur la tombe de John Keats, puisque Keats est enterré à Rome, dans le cimetière protestant, et aussi sur la tombe de Shelley, qui est aussi à côté de Keats, au cimetière protestant.
Il leur dédiera à chacun un poème.
La tombe de Keats et la tombe de Shelley, c'est dans le premier livre qu'a jamais publié Wilde, un recueil de poèmes qui s'appelle Poems. Parce que Wilde naît d'abord comme poète. Avant d'être dramaturge, avant d'être romancier ou philosophe, il est d'abord poète. Et donc John Keats, pour en revenir à lui, c'est son poète préféré. Et lorsqu'il va faire sa série de conférences aux États-Unis, il rencontre la nièce Emma, s'appelle-t-elle, c'est son prénom, la nièce de John Keats aux États-Unis, et elle lui offre le sonnet en bleu de John Keats, l'original, et il pense que c'est son plus beau cadeau. Il vénère Keats, il vénère ce cadeau. Sauf que ce cadeau, à la fin, sera vendu, lui aussi.
Pour quelques shillings,
lorsque Wilde sera en prison, tout cela va être vendu, y compris le poème original autographe de John Keats, qui était une véritable relique pour Wilde. Tout est vendu de Wilde, hein, ses tableaux pré-raphaélites, de Burne Jones, Dante Gabriele Rossetti, William Morris. On les connaît moins en France, mais c'est comme Monet, Manet ou Degas en Angleterre. Eh bien, tout ça va être vendu, y compris le poème autographe.
Donc c'est vraiment un saccage de la vie d'Oscar Wilde qui va bientôt se mettre en place.
Oui, c'est
mais
ça.
Il faut mentionner d'abord qu'il y a un mariage.
Oui.
Parce que si l'on parlera demain avec Charles Dantzig, plus particulièrement du procès, il faut quand même dire que l'homosexualité de Wilde, elle n'est pas immédiatement assumée et que, ou alors immédiatement découverte, je ne sais pas. Et il se marie avec une femme que vraisemblablement il aime quand même et il mène une vie bourgeoise. Oui. Il a des enfants.
En fait,
Daniel Salvatore Schiffer.
Constance Lloyd, donc sa femme officielle, est la deuxième femme connue que Wilde ait rencontrée. Il a d'abord eu une jeune fiancée qui s'appelait Florence Balcombe, mais avec laquelle il n'a jamais consommé, entre guillemets, physiquement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, après presque un an de fiançailles, elle le quitte et épousera Bram Stoker, l'auteur de Dracula. Mais Wilde donc fait...
Vous faites un parallélisme là entre...
Non, pas spécialement, mais...
Entre Bram Stoker et Oscar Wilde, non ?
Non. Sauf d'autres l'ont fait. Moi, je ne le fais pas ce parallélisme, mais d'autres l'ont fait. Et donc, Wilde est abandonné par Florence Balcombe. Il est à Oxford pendant ce temps-là. Après Oxford, il fait cette tournée aux États-Unis qui le mènera dans toutes les grandes villes et même les villages les plus reculés des États-Unis, y compris le Nouveau-Mexique et le Canada, donc toute l'Amérique du Nord. Et à son retour des États-Unis, il est riche et célèbre. Il épouse Florence Lloyd. Constance Lloyd, pardon. Et il l'épouse dans une église du centre de Londres. Il a deux enfants avec elle, Cyril et Viviane. Viviane sans E, qui est un prénom masculin en Angleterre. Et Merlin Holland, l'actuel petit-fils, est le fils de Viviane Holland. Eh bien, il se marie donc avec Constance. Il a deux enfants. Mais ce qui va éloigner Wilde de Constance, bizarrement, c'est la maternité.
Oui, ça, il ne supporte pas.
Voilà.
Non pas d'avoir des enfants, mais qu'elle se retrouve enceinte.
Voilà, c'est ça. Wilde, en tant qu'esthète et dandy, il écrit dans ses lettres, hein, il a des mots très désagréables, fort peu amènes, fort peu gentils envers sa femme. Il ne supporte pas ce corps qui se déforme, qui grossit avec la maternité, qui a des lignes comme dans du marbre, dit-il. Elle vomit, elle a tout le temps des nausées. Tout cela,
tout ce qui est trop réel, en fin de compte, tout ça, qui ressemble trop à la vie.
Voilà,
tout ça n'est pas assez
réel,
du côté du rêve.
Voilà, c'est ça. C'est
ça
pas
assez
à côté du rêve ou à côté de son idéal de beauté. Et autant Constance était jolie lorsqu'il la rencontre, il la compare à une fleur de lys, la fleur préférée des peintres pré-raphaélites, toute blanche, délicate, fluette, autant lorsqu'elle est enceinte, est déformée, et ça l'éloigne de Constance, parce que ça l'éloigne de son idéal. Et c'est à ce moment-là qu'il rencontre Lord Alfred Douglas, Bosie, et un autre aussi, Robert Trost, qui va devenir son amant le plus fidèle, le plus loyal.
Celui Bosie, qui l'aimera peut-être le plus.
Voilà, Bosie, c'était une passion qui va le dévorer, qui va le mener en prison, tandis que Robert Trost, ça va être une passion, mais aussi un amour loyal et beaucoup plus durable, beaucoup plus solide. Mais pour en revenir à votre question, effectivement, Wilde découvre l'homosexualité pendant son mariage, et il fait venir ses amants chez lui, de façon tout à fait impudente. Il vit sous le même toit avec sa femme, son amant ou ses amants et ses deux enfants. Et c'est cela qu'on va lui faire payer aussi très cher lors de son procès.
Donc c'est loin d'être un mari idéal. Quand vous parlez de son dégoût pour sa femme quand elle est enceinte, ça peut rappeler aussi la façon dont il cherche à s'isoler quand il est à Oxford, de tout bruit par exemple. Lui qui aime beaucoup la musique ne supporte pas les craquements du parquet et il en fait payer un petit peu les conséquences à Scout, qui est son domestique. Oui. Il y a quelque chose là de très étrange, de très étonnant, enfin qui va très très loin dans la façon dont, par exemple, le bruit le gêne.
Oui, le bruit le gêne. Les odeurs, bien sûr, les parfums qu'il n'aime pas le gênent.
Donc quand il donne une réception, il faut que son majordome aille déboucher les bouteilles dans une pièce à côté.
Oui,
parce que
voilà,
ça fait trop de bruit. Par exemple, faut également qu'il porte des chaussons en feutre.
Oui.
Enfin, on est là dans quelque chose qui dépasse un petit peu l'entendement.
Oui, et en plus, Wilde aimait beaucoup la musique. Il aimait notamment Chopin et Mozart. Il faut pas oublier que Wilde devient franc-maçon à un moment donné, hein, comme Mozart. Il a une passion pour la flûte enchantée, l'opéra maçonnique de Mozart. Il adore Chopin. Et le frère de Wilde, dont on a déjà parlé, auquel on a fait allusion, qui est 2 ans plus âgé que Wilde, est organiste à Oxford et joue merveilleusement bien Chopin. Et donc Wilde aime beaucoup écouter la musique, notamment les choses délicates de Chopin, les ballades, les nocturnes, les valses. Et il déteste le bruit quand il écoute de la musique. Il peut piquer des colères dithyrambiques, grotesques parfois, monstrueuses. Bien qu'il soit gentil dans la vie, Wilde est quelqu'un de très gentil, de très doux, très affable, très généreux, beaucoup de compassion pour les gens en général. Mais il ne supporte pas être dérangé quand il écrit ou quand il écoute de la musique, quand il est concentré sur son œuvre. Alors, il y a une chose que je tiens quand même à dire, c'est que même s'il accueille chez lui les amants pendant qu'il est marié et qu'il a ses enfants, une chose est certaine, c'est que Wilde a toujours été un très très bon père. C'est une grande injustice de lui avoir ôté ses enfants à la fin de sa vie, parce que autant Wilde a pu être un mari détestable pour Constance, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé un de mes chapitres un mari non idéal, c'est une évocation de sa pièce, à mon avis la plus belle, un mari idéal. Il était certainement
pas. On parlera jeudi.
Et voilà, c'est ça, oui. Il n'était certainement pas un mari idéal. Par contre, il était un très très bon père. Ça, ses fils l'ont toujours dit.
Et alors, oui. Un très bon père qui a eu en fait un malheur dans sa vie, qui est de rencontrer Lord Alfred Douglas.
C'est le début de la fin.
C'est effectivement le début de la fin. On peut faire un portrait rapide avant de se quitter de Lord Alfred Douglas,
oui.
Qui semble un peu avoir le rôle du démon au fond.
Oui, c'est ça. C'est la beauté du diable.
D'Oscar Wilde.
C'est la beauté du diable ou le démon du bien. C'est surtout la beauté du diable. Wilde a à peu près 40 ans. Il vient de publier Le portrait de Dorian Gray, qui est en fait son seul roman. Au départ, c'est pas un roman, hein. C'est un feuilleton pour un magazine américain. Et donc, il rencontre Bosie à Oxford. Wilde a 40 ans, Bosie en a 20. Wilde est célèbre. Bosie est fasciné par le grand maître. Wilde est fasciné par le jeune Bosie. Et se noue un lien, une histoire d'amour. Sauf qu'à l'époque, dans la société puritaine, l'homosexualité est interdite. L'Amendment Act numéro 11 l'interdit rigoureusement. Peine de prison de 2 ans. Or, Wilde s'affiche publiquement avec Bosie, notamment au Café Royal, le café du centre de Londres. Et là, le père de Bosie, le marquis de Queensberry, fait suivre Wilde et le diffame. Et là, va s'entamer le procès que Wilde va finir par perdre, hélas.
Et ce procès, nous en parlerons demain en particulier avec Charles Danzig. Merci beaucoup, Daniel Salvatore Schiffer.